Thérèse Aubert, Savigny. Je suis révoltée. Ces policiers qui obligent une femme à accoucher sous les menottes, c'est honteux. Ils n'ont pas honte devant leurs femmes, devant leurs enfants. C'est même pas des bêtes. Une bête a le respect de la vie encore. Qu'est-ce que c'est que ces déchets?
Merci aux journalistes de France Inter de défendre le service public et de défendre la cause de tous les services publics. J'espère que tous les fonctionnaires vont vous soutenir. Gagnez vite pour nous redonner une info de qualité. Merci, au revoir.
Je sous-signé Arthur de la Ville, étudiant, contribuable pris en otage et usager victime en galère de la radio publique, n'accepte de soutenir le mouvement de grogne, malaise et surenchère, engagé depuis le mardi noir, 27 janvier 2004, par les journalistes ultra de Radio France, pour l'application des accords corporatistes qui régissent leurs privilèges au sein de l'audiovisuel public, qui fait pourtant preuve dans la pagaille de signes d'ouverture, de volonté d'apaisement et de pédagogie, qu'à la condition qu'il ou elle cesse à l'avenir d'employer les termes ci-dessus, entre guillemets, pour parler d'un mouvement social. Enregistré durant les grèves des micro-trottoirs indignes, donnant la parole aux usagers, et non comme il se doit aux grévistes. De parler des casseurs plutôt que des violences policières, Évian, des dysfonctionnements plutôt que des idées débattues, Saint-Denis, etc. De reproduire les discours officiels sans les critiquer, et d'inviter les responsables politiques sans jamais vraiment les contredire. D'entretenir les bruits médiatiques inutiles, le voile, Sarkozy présidentiable, etc. Et à la condition qu'il ou elle s'intéresse de près à toutes les questions, sociales en particulier, en donnant la parole aux acteurs et non aux experts ou à l'opinion publique. Qu'il ou elle lise autre chose que des dépêches d'agence et les éditoriaux, afin d'être averti de l'existence de modes de vie et de pensée alternatifs à la pensée unique. Bref, à la condition que leur pratique soit davantage en accord avec leurs convictions de service public. Salutations, Arthur de la Ville.
Oui, bonjour, c'est Jean-Louis, un petit patron parisien, et j'aimerais juste que tu dises combien gagnent les journalistes sur France Inter et quelle augmentation ça leur fera sur leur salaire, donc 20%, juste pour savoir combien ils gagnent par rapport à un petit patron comme moi.
Bonjour, c'est Rémi à Bordeaux. Je voudrais juste te dire que je soutiens la grève des journalistes de Radio France. J'en ai un peu marre de voir tous les acquis et tous les avancées sociales fondre depuis que le nouvel gouvernement a pris les rênes du pouvoir. Donc tenez bon, je suis auditeur de France Inter, je le reste, je ne zappe pas, j'attends les nouvelles et je vais aller signer de ce pas la pétition sur le site. Courage à tous et faites en sorte qu'on puisse avoir une radio libre et sans pub. Merci.
La grève des journalistes de France Inter nous prive d'informations de connivence. Si j'ai bien compris les revendications des journalistes, ils veulent avoir le même salaire que leurs collègues de la télé. Il suffit de baisser les salaires des journalistes de la télé. Voilà, c'est très simple. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Ouais, tenez bon les journalistes de Radio France. Vous constituez l'une des dernières lignes de défense du service public assiégé. Et j'ose croire que nous sommes des millions à soutenir votre mouvement et à travers lui une radio intelligente, libre et populaire. Courage.
Courage. Voilà les messages avec des bémols, avec des critiques et beaucoup, beaucoup de soutien. Pour les journalistes d'information de Radio France, toujours en grève comme vous le savez, je rappelle le site pour tout savoir sur ce mouvement de grève et pour soutenir nos camarades journalistes, c'est www.26.fr/silence-radio, tout attaché, je recommence, 3W, ensuite c'est 20, c'est-à-dire 20, 206.fr/silence-radio. Aujourd'hui, on revient sur une rencontre avec un homme qui s'appelle Cesare Battisti. Vous vous souvenez peut-être de cette rencontre. On avait fait une suite de reportages en Italie. On avait parlé des Brigades Rouges et des réfugiés politiques italiens en France. Et on avait rencontré Cesare Battisti, qui est écrivain notamment de Polar. Et on a appris qu'il a été arrêté hier après-midi à Paris et placé sous écrou extraditionnel. Il fait partie de ces militants italiens des années 70 qui s'étaient reconstruit une vie en France sous la protection de ce qu'on appelle la jurisprudence Mitterrand. C'est-à-dire que le président de la République avait pris l'engagement en 85, il y a 20 ans, bientôt 20 ans, de ne pas extrader ses réfugiés à condition qu'ils s'engagent, selon l'expression de l'époque, à sortir de la spirale de la violence, ce qu'avait évidemment fait Cesare Battisti et d'autres. Voilà, il a été arrêté hier, on ne sait pas les suites qui seront données à cette arrestation, on sait que ses avocats n'ont pas pu pour l'instant le voir, mais c'est une occasion pour nous de le retrouver, d'écouter son histoire qu'il nous avait racontée. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Sophie de Paris. Ça m'a beaucoup touchée, ce reportage, parce que j'ai perdu la vue à l'âge de 4 ans. Et je trouve que ce qu'a vécu ce monsieur, c'est un petit peu ce qu'on aimerait tous vivre un jour, c'est revoir ne serait-ce qu'une journée pour retrouver peut-être des souvenirs. Je trouve aussi qu'il parle très bien du deuil, d'une nouvelle vie, d'autres choses, c'est vrai, des tabous, des a priori des gens vis-à-vis du handicap. Et puis quelque chose aussi, je crois qu'on aborde très rarement, c'est que être aveugle n'est pas un état, on le devient, soit par accident ou soit par maladie, et qu'il y a souvent beaucoup de souffrance derrière, et un long chemin. Donc j'ai trouvé ce témoignage très, très intéressant, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui parle très bien de tout cela, de la force de caractère qu'il faut, parce qu'on n'accepte jamais un handicap, mais on peut l'assumer très bien. Je crois qu'il l'a très bien assumé. Voilà, merci pour vos émissions, et à bientôt, au revoir.
Bonjour, Daniel Mermet. Je suis Christine, à Bourg-en-Bresse. J'ai 46 ans. J'ai toujours des tas de choses fort intéressantes à faire. Je m'arrête rarement. Mais là, hier et aujourd'hui, entre 17h15 et 18h, je me suis posée. Je me suis assise et je n'ai rien fait d'autre qu'écouter. Écouter l'histoire de Jean-Marie Dubrulle. Fascinant. Ah, j'ai vraiment un autre regard sur le monde, sur les gens qui m'entourent. Je n'ai qu'un mot, émotion. Ah, super, mais vraiment, mais merci, merci de nous avoir fait entendre cette histoire. Merci, Daniel. Ciao.
Un immense merci pour l'émission sur Monsieur Dubrulle. C'est enfin du positif. Quelle force, quelle simplicité, quelle profondeur. C'était un vrai bonheur. Petit bémol, pourquoi y ajouter autant de bruitage et de commentaires, de redites? Parce qu'un témoignage aussi intense n'a vraiment pas besoin de vinaigrette. Par ailleurs, serait-il possible d'avoir l'adresse de cette personne? Et c'est vrai que dans un monde morose comme on a, nous donner du positif comme ça, c'est magnifique. Connaissez-vous Tim Guinard, Plus fort que la haine, dont j'ai lu? C'est un témoignage admirable aussi et positif. C'est pourquoi je me permets de vous le signaler. C'est pas quelqu'un de ma famille. Merci, bonne chance et continuez. En tout cas, ça change d'autres choses et même de certains journalistes qui sont peut-être en grève mais qui nous sortent quand même des banalités bien souvent qui nous fatiguent. À bientôt.
Bonjour, je voulais dire à tous ceux qui l'émission d'aujourd'hui intéressait de lire L'aveuglement de José Saramago. C'est au point, donc en poche. Bon, c'est juste de la fiction, hein, ça vaut pas la réalité. Hein. Mais c'est quand même un très grand écrivain et un très grand livre qui raconte l'histoire d'une épidémie de cécité. Voilà, donc c'est pas très marrant comme livre, mais c'est vraiment bien. Et c'est donc L'aveuglement de Saramago, portugais, prix Nobel de littérature en 98. Voilà, c'était Nico.
C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté la merveilleuse histoire de Jean-Marie, La lumière au bout des ténèbres.
qu'un tel miracle puisse se produire pour mon fils autiste, exclu de notre société comme beaucoup d'autres, mis à l'isolement durant plus de 5 années en cellule psychiatrique à l'âge de 15 ans, sans pouvoir sentir l'air sur sa peau ou même regarder le ciel faute de fenêtres. Que tous sachent combien de jeunes adultes autistes croupissent ainsi dans les hôpitaux psychiatriques. Pour mon fils, cela dure depuis plus de 15 ans. Nos gouvernants se désintéressent de ce problème alors que Dieu intervienne pour mettre fin à leur calvaire. Bernadette de Sisteron.
Depuis toujours et surtout maintenant que vous êtes libre, Gaz de France et les publicitaires vous prennent pour des cons. Je suppose que beaucoup de gens ont déjà posé la question, mais elle finance quoi la pub sur France Inter et le salaire de qui? Et chez France Télévisions? Bon, moi je me suis acheté un marqueur la semaine dernière pour retourner les pubs dans le métro et ça fait du bien. Voilà, salut.
Écoutez, je téléphone pour rappeler à Adrien de Mantes-la-Jolie que si effectivement les industriels doivent faire beaucoup de pubs et dépenser beaucoup d'argent pour vendre leurs produits, c'est aussi un peu grâce à ça que les mêmes industriels font travailler les quelques 25 millions de Français qui ne sont pas encore au chômage, ou les quelques 300 millions d'Européens qui ne le sont pas non plus. Et que, effectivement, s'il est vrai que c'est la somme d'argent qu'ont de pauvres gens sur le reste de la planète, ça n'enlève rien à la nécessité pour nous de travailler, de créer des produits nouveaux et d'en distribuer le plus possible en espérant qu'un jour ils en auront aussi. Voilà. Au revoir.
C'est simplement un petit mot pour ajouter à vos émissions. Là, je travaille actuellement dans une boîte où on est 469 personnes et on nous a annoncé en septembre que il y en aurait 169 qui seraient foutus dehors, alors qu'on est une boîte qui fait des bénéfices. Mais bon, on a été racheté par Fiat il y a de cela à peu près un an et voilà. On appartenait à Renault qui nous a vendu ensuite à Fiat, et on va être foutu à la porte, un tiers du personnel. Dans une région où il n'y a déjà pas beaucoup de boulot. Voilà, c'est tout.
Voilà, vos messages, il y avait effectivement beaucoup de messages suite au reportage de Claire Otter sur cette histoire de ce monsieur Jean-Marie Dubrul qui a recouvré la vue. Alors, on va retrouver Cesare Battisti, mais auparavant, je voudrais qu'on reparle un petit peu de la grève des journalistes de l'information. Vous trouvez ça bien, vous les soutenez, mais il y a quand même un truc qui vous manque, quoi. Il faut le dire, c'est dans vos messages, vous le dites, vous le répétez, vous le dites, ça commence quand même à bien faire. Vous êtes en manque. Vous êtes en manque de quoi? Eh ben, vous êtes en manque de Sarkozy. Eh oui, 16 jours de sevrage, 16 jours sans Sarkozy sur France Inter, vous n'en pouvez plus, et vous le dites, et nous, eh ben, on est un vrai service public, et on va donc immédiatement réparer ça.
Ogna Pasqua, Ogna Pasqua, Ogna Pasqua, Marcella. Ogna Pasqua, Ogna Pasqua, Ogna Pasqua, Marcella. Il nous vient tout droit d'Hongrie, il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des Orfèvres, le brushing et le dangle, quand on aille le yesson, planquez-vous le voilà. On l'adore chez tous les pandores, les CRS de l'huile et les caresses. On va rêver de tous les poulets, la matraque, la plage mal et les menottes au radiateur, on va bientôt déguster. Et quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas.
attention les diables à Nicolas, attention les filles à Sarkozy, attention les diables à Nicolas, attention les filles à Sarkozy. À quoi pense-t-il? Aurait-il des ambitions? Mais que fait-il? Il s'approche de Matignon. À quoi rêve-t-il? Peut-il se faire désirer? Mais où va-t-il? Il s'approche de l'Élysée. Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres. Le jugue est en longue, grandes oreilles, bleu et sombre, planqué ou le voilà. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le chardeur. Quand il voit un blague, on entend voler les grecs. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Donne tes papiers.
Voilà, c'était Jérôme Bourdelon, vous l'aviez reconnu, la chorale des interlutants, salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, Cesare Battisti.
Flight number 2, arriving from Newton.
Mais sinon aussi, il y a une poésie aussi que je peux vous faire passer, qu'il avait écrite il y a quelques années. J'ai été révoltée, donc j'étais. J'ai été, donc je pourrais être. Je pourrais être, donc je me révolterai. Chaque abri est provisoire, chaque maison n'est pas la mienne. Tous les lits sont pour une nuit. Subversif et communiste, pour les États, je suis un terroriste. Le seul futur qui se profile à l'horizon, est-il de métal et de béton? Je vis sans demeure et sans pays, sans toit ni droit. On pourrait me penser disparu, mais je suis tra la perdute gente. Paolo Persichetti.
Alors on a ouvert avec ce petit poème de Paolo Persichetti, lu par une de ses amies. C'était en septembre 2002, suite à l'arrestation et à l'extradition à la Sauvette, dans la nuit du 24 au 25 août 2002, de Paolo Persichetti, qui a été à l'époque extradé. Et qui avait surpris tout le monde, ce revirement brutal du gouvernement, ben c'est toujours le même aujourd'hui, sur une base juridiquement contestable, et qui constituait un véritable reniement de la parole donnée par la France en opposition au principe de l'état de droit. C'est, je vous dis, ce que dit le comité pour la libération de Paolo Persichetti. Cesare Battisti est un peu dans la même situation, même si juridiquement c'est pas la même, c'est pas tout à fait comparable, son histoire est différente, mais il fait partie aussi de ces Italiens, de ces engagés politiques dans les années de plomb, c'est-à-dire dans les années 70, qui dans les années 80 est venu vivre en France comme on estime à une centaine ces anciens militants italiens qui se sont pour la plupart reconstruit une vie en France, et c'est le cas de Cesare Battisti, sous la protection, je disais tout à l'heure, de cette jurisprudence Mitterrand, c'est-à-dire un engagement de ne pas renvoyer, de ne pas extrader ces réfugiés politiques en échange de sortir de la spirale de la violence. Cesare Battisti vit depuis longtemps en France, il est écrivain, il a publié une je crois, 10, 12 ou 13, exactement 13 bouquins, des romans, des polars chez Gallimard. C'est un auteur très, très apprécié, très aimé. Et donc, et ben voilà, pas plus tard qu'hier, il a été arrêté sans qu'on puisse savoir exactement ce qu'il va devenir. Alors, on l'avait rencontré à l'époque, en septembre 2002, et voici ce qu'on s'était raconté. Cesare Battisti, Papi Caval. En France, donc, ils sont, on ne sait pas très bien combien aujourd'hui, ils ne veulent pas le dire, on ne veut pas le dire, enfin, bon, voilà, entre, on va dire, plus de 80. Plus de 80 de ces réfugiés qui vivent donc paisiblement en France. Et parmi eux, César Battisti. Cesare Battisti, lui, il est en France depuis 1992 et il est écrivain. Vous avez peut-être lu ses bouquins, « Jamais plus sans mon fusil »,« Dernière cartouche »,« Buena Onda » qui sort chez Gallimard. C'est un écrivain de polar et il vit paisiblement à Paris. Et il est très inquiet, nous l'avons rencontré.
Disons que oui, je me sens comme un papy en cavale, presque quoi. Ouais, ça fait tout bizarre. Recommencer à être en cavale 30 ans après, 25 ans après, waouh, c'est pas évident quoi, c'est pas évident. Je me sens presque ridicule parfois. Il y a des moments où je dis, attends, mais c'est vrai ça, ou alors c'est pas vrai quoi, c'est une BD, c'est quoi cette histoire là? Même parce que c'est difficile à en parler avec mon entourage, les gens qui sont les plus proches, ils comprennent pas. Ils ne m'attendaient, mais vous, monsieur, mais ça va pas. Même les bars, les bistrots en bas, ou mon libraire, etc., ils disent, non, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pas possible si tu racontes là. Tu plaisantes. C'est un roman qu'il est en train d'écrire, ça. Et parfois, j'y renonce. Et je fais presque, je dis, oh oui, en fait, non, ça va, laisse tomber. J'ai 48 ans. Je suis né dans la région de Rome, dans une ville latine, ça s'appelle. C'est la plaine Pontine.
Une famille, alors j'ai lu quelque part, une famille religieusement communiste.
Oui, parce que c'est un peu à l'italienne, c'est-à-dire stalinien et catholique. Et il y avait Die et puis il y avait Staline. Et c'était presque la même chose.
Milieu modeste.
Ah oui, paysan. J'étais le petit dernier. Et donc, c'était moi qui devais aller à la fac et tout cela. Et en réalité, je n'ai même pas terminé le lycée parce que j'étais arrêté en terminale.
J'ai été arrêté ou j'ai arrêté?
Non, j'étais arrêté. J'étais en prison. Oui, j'étais mineur, mais j'étais en prison. Je ne me souviens plus, à moi ou deux, je ne me souviens plus. Et c'était une manif, le Vietnam, c'était l'époque du Vietnam. Donc c'était des manifs, en Italie, il y en avait tous les jours. Et puis voilà, quoi. Et donc c'était l'époque des années 70, l'autonomie ouvrière, l'OTAN continua, et toute la mouvance d'après 68.
Alors là, il faut évoquer ce que ça a été en Italie, parce que nous, en France, on a eu mai 68, et puis après quand même une retombée après mai 68, et puis on a eu Action Directe, etc. Mais c'est sans comparaison avec ce qui s'est passé en Italie au cours de ces années 70, hein, ce qu'on a baptisé les années de plomb. On était proche de la guerre civile.
Bon, d'abord, les années de plomb, c'est pas seulement un mauvais titre, mais c'était un mauvais film de la Ventrotin, et donc je partage pas du tout cette dénomination-là. C'était pas des années de plomb, c'était des années d'abord de fêtes, de culture, d'initiatives, de créativité, parce que avant les armes, il y a eu quand même un grand, très grand mouvement culturel que je pense était le plus important de l'après-guerre en Europe. Et donc c'est cela qu'on cherche à effacer et on parle que des armes. C'est ça les pièges en fait. À cette époque-là, en Italie, il y avait des usines comme la Fiat, par exemple, parfois totalement sous le contrôle des comités autonomes. C'est-à-dire que il y avait les comités autonomes qui géraient des usines comme la Fiat. La réduction du temps du travail, la cantine, Le temps qui restait, la réduction c'était 4 heures par jour, et le reste du temps c'était employé pour des activités créatives, récréatives. On faisait des ateliers d'écriture, on faisait des théâtres, on faisait des grandes bouffes, on faisait de la fête, on parlait des problèmes de la maison, du quartier, etc. Il y avait des situations, les hôpitaux, les services, les transports, ils étaient contrôlés par les militants, par les organisations, par les groupes. Il y avait des assemblées générales où se réunissait toute mouvance politique de l'extrême gauche de l'époque. Quoi encore? Ben, il y avait des quartiers où il y avait, par exemple, l'autoréduction de l'EDF. Nous, on faisait des autoréductions que ça marchait à niveau de masse. Hein. Et bon, on devait payer les mêmes tarifs des entreprises.
Les mêmes tarifs que les entreprises, il n'y a pas de raison.
Voilà. Pourquoi les privés devraient payer plus que les entreprises? Donc, on veut payer la même chose. Et ça marchait. Par exemple, les prix, ce qu'on appelle les prix politiques, on a imposé à des magasins de vendre certains produits dans certains quartiers à un certain prix. Tout en calculant, parce qu'on était tellement beaucoup qu'il y avait des gens, il y avait des ingénieurs, des études, on faisait les calculs, etc. Ils disaient, bon, là, par exemple, ce dentiste-là, lui, pourrait faire une couronne à la pauvre dame qui habite dans un quartier populaire, il va lui prendre 1 million de lire. 1 million de lire, c'est 10 fois plus de ce qu'il peut payer. Et donc, on calculait les frais du dentiste, mais même les impôts qu'il allait payer sur ça. Et puis, bon, ça va être à 150 000.
Sinon,
et bon, deux ou trois avertissements, et après, peut-être, on lui donne un coup de clé anglaise sur la tête, peut-être, mais bon, pas plus à l'époque.
En fait, c'est quelque chose comme une guerre civile qui a traversé l'Italie entre 69 et 82. Histoire qu'on connaît peu en France, et qui en Italie passe pas, ça fait partie de ce genre de passé qui ne passe pas. C'est un peu comme si mai avait duré 10 ans dans ce pays. Les militants radicaux étaient alors des centaines de milliers, des milliers avaient choisi de passer dans la lutte armée avec ce que décrivait à l'instant César Battisti, braquage, enlèvement, procès populaire et aussi assassinat. Rien ne peut excuser évidemment le choix du terrorisme, ni excuser, ni justifier, mais on peut essayer de comprendre. Et ce que j'évoque là, si j'ajoute Brigade Rouge, si j'ajoute Prima Linea, eh ben, c'est la Terreur Rouge. Mais la plus violente fut, dans cette période-là, la Terreur Noire, exercée par des mouvements néofascistes, téléguidés par les services secrets italiens. Et aujourd'hui, après des années d'enquête, plus personne ne conteste cet aspect de l'histoire. Et certainement pas Isabelle Sommier, qui est sociologue, qui est maître de conférence de sciences politiques à l'Université de Paris 1, et qui est auteur de « La violence politique et son deuil » aux presses universitaires de Rennes. C'est sorti en 98. Isabelle Sommier.
Il y a effectivement une impression qui est souvent fausse, hein, qui est présentée la naissance du terrorisme en Italie au milieu des années 70 comme si ça surgissait de un peu de nulle part, un peu du néant, tiens, tout d'un coup, voilà, des individus se mettent à assassiner, à séquestrer, etc. Et c'est une vision qui est totalement fausse historiquement et puis surtout qui ne permet pas de comprendre à la fois que ce mouvement armé a été absolument unique, hein, sur la deuxième moitié du XXe siècle et puis sur l'ensemble de l'Europe. C'est certain que c'est une contestation armée qui est sans précédent. Hein. On ne peut pas comparer avec la France, avec Action Directe, ni même avec l'Allemagne, avec la Fraction Armée Rouge. Hein. On ne peut pas la comparer parce que c'est un mouvement qui s'inscrit en fait sur 10 ans, qui va entraîner des milliers de personnes dans des groupes armés. Une période également où, au-delà des groupes qui ont été identifiés comme terroristes, Prima Linea, Brigade Rouge pour l'essentiel, eh bien il y avait une frange de la jeunesse qui était favorable à l'usage de la violence, qui dépassait de beaucoup les rangs des dites organisations terroristes. Et puis, c'est un mouvement effectivement qui a marqué en profondeur l'Italie et que l'Italie refuse encore aujourd'hui d'affronter. C'est peut-être pas possible de dire sereinement, mais c'est un passé qui ne passe pas que l'Italie ne veut pas regarder, analyser pour voir l'ensemble des responsabilités.
Ouais, alors c'est vraiment un cadavre dans le placard.
En fait, toute l'histoire, elle commence au moment de ce qu'on appelle le Biennio Rosso en Italie, les deux années rouges très marquantes, c'est 67-69. 67, c'est le début des révoltes étudiantes et des révoltes ouvrières également, hein, tout ça sur deux ans. Hein, et bon, c'est un processus que nous connaissons également en France, hein, de contestation à la fois étudiantine et ouvrière. Mais en France, on a un raccourci comme ça, un condensé sur quelques mois finalement en 68, alors qu'en Italie, eh bien, il y a deux grandes vagues de contestation ouvrière et étudiantine qui vont mettre en avant bon, des slogans qu'on a entendus également en France, hein, sur le pouvoir ouvrier, sur ouvriers, étudiants, tous unis, etc. Jusque-là, je dirais, c'est un processus
qui est quand même dans l'air du temps. Voilà.
Qui n'est pas fondamentalement différent. Mais il y a une différence majeure, et sa différence majeure, c'est un traumatisme, c'est un attentat. Le 12 décembre 1969, l'attentat de la Piazza Fontana, qui est un attentat à l'explosif, commis dans une banque et qui va faire plusieurs morts. Immédiatement, la police va arrêter des anarchistes, en considérant que c'est un attentat anarchiste. Et l'un de ces anarchistes arrêtés immédiatement, Pinelli, va être défenestré par la police. Et les groupes d'extrême gauche, et même le Parti communiste, hein, dénoncent bien entendu cette défenestration, mais considèrent également que cet attentat n'est pas un attentat de facture révolutionnaire, anarchiste ou communiste, mais désigne un responsable qui serait l'extrême droite, parce qu'il faut savoir qu'en Italie, il y a un activisme néo-fasciste qui commence à devenir très virulent. Ce premier attentat est le premier attentat d'une longue série d'attentats commis par l'extrême droite, mais qu'en Italie on appelle les stragi di Stato, les massacres d'État, et ça s'est avéré plusieurs années après véritable.
Historiquement prouvé.
Voilà, que ces attentats indiscriminés, aveugles, hein, sous la forme de bombes, avaient été commis effectivement par des groupes néo-fascistes, mais avec la complicité d'une partie de l'appareil d'État.
Donc des services qui sont intervenus directement dans la manipulation de ces groupes.
Absolument, oui. Je dirais pas que c'est l'ensemble des services secrets. C'est une partie, déviante sans doute, hein, de ces services secrets. Ça, très certainement. Et il est vrai également qu'au cours de cette période, il y a également des rumeurs de coup d'État. Alors vous en avez, il y a eu une première tentative en 70, il y en a une autre en 74. Donc on a, à la charnière des années 60-70, hein, on est dans un pays où il y a, c'est vrai, une situation assez anarchique du fait des grèves qui sont de très très grande ampleur. Et puis, un climat de plus en plus pesant qui va conduire certains groupes d'extrême gauche à se préparer à un éventuel processus de fascisation ou même de coup d'État en mettant en place des bras clandestins, parce qu'il faut aussi tenir présent à l'esprit qu'ils sont dans un pays qui de toute façon n'a jamais totalement rompu finalement avec ce passé en raison d'une épuration assez limitée, il faut bien le dire, des cadres dans l'armée, dans la police, issus de la période de Mussolini.
Voilà, et dans cette lutte armée à l'époque, eh bien, il y avait le jeune César Battisti, qui aujourd'hui a 48 ans, qui vit depuis 10 ans en France, qui craint d'être à son tour extradé et qui se souvient.
Vous disiez, on s'est fait piéger par la lutte armée. Le gouvernement italien, dans les années 70, nous a petit à petit poussé vers la lutte armée. Est-ce que ça veut dire que c'était pas dans les intentions, ça faisait pas partie des recours des militants de l'époque?
C'est-à-dire que la situation était telle à l'époque que prenons par exemple les mai 68 en France et les 68 en Italie. La France a répondu d'une autre façon à cela. C'est pour cela qu'en France, on n'a pas eu 10 ans de guérilla comme en Italie. Parce que la France a répondu d'une autre façon. Je ne vais pas maintenant faire l'avocat de la France, mais la riposte de la France n'était pas brutale et militaire comme en Italie. La répression en Italie était telle qu'à un moment donné, il y a eu des personnes, que je respecte toujours, qui ont pensé qu'alors la seule solution, c'était se défendre. Parce que vous savez, quand vous voyez, vous marchez dans la rue et il y a votre ami à côté qui tombe, parce qu'on lui a tiré dans la nuque, eh ben c'est très très difficile garder le calme, hein. Donc voilà, je parle de cette Italie là, je parle du début des années 70. Quelqu'un qui à l'époque avait 20 ans ou 25 ans
vous croyez que c'est que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas dire bon ben jusqu'à hier j'ai pas voulu toucher une arme, mais aujourd'hui je vais la prendre parce que c'est moi, oui, donc oh, je vais pas me laisser tuer comme ça. Parce que quand un pays ne respecte pas la Constitution, quand un gouvernement qui ne garantit plus la liberté et les droits de ses citoyens, les citoyens ils ont les droits de se rebeller, et si c'est là, c'est à travers les armes, pourquoi pas. Or, cela dit, ça c'est de la théorie. Dans la pratique, je sais qu'on s'est fait piéger. Je sais que on a fait un pas trop long, et à un moment donné, c'est exactement ce qu'ils attendaient de nous, et là ils nous ont massacrés. C'est vrai qu'il y avait des différences entre nous. Il y avait plusieurs organisations en Italie. On a répertorié à cette époque plus de 100 organisations armées.
100 organisations armées.
Plus.
Armées,
oui, ouais. On a répertorié plus de 100 organisations armées, 5 et quelques, je ne me souviens plus bien. Bon, les plus importants sont 4 ou 5, dont les Brigades Rouges, Prima Linea, les Prolétaires Armés pour le Communisme, Action Révolutionnaire, etc. Moi, par exemple, j'étais dans une organisation dont les membres venaient de plusieurs autres organisations et qui étaient un peu plus, un esprit un peu plus libertaire, si on pourrait dire marxiste, anarchisme. Bon, il y avait un avantage très varié, mais de toute façon, on était tous dans la même situation. C'était des milliers de personnes armées. Ces organisations-là pouvaient compter, les plus grandes pouvaient compter avec quelques milliers de personnes armées, je veux dire. C'était pas des groupuscules de 10 ou 15. Quand je parle de personnes armées, je parle de personnes qui étaient clandestins et qui menaient une guerre contre l'État.
Alors, en 74, vous avez été arrêté, vous avez été condamné pour du braquage.
Oui, en 74, c'est pour des braquages. À l'époque, moi, j'étais déjà sorti de la jeunesse communiste. J'ai fait un passage.
Vous avez quel âge en 74?
20 ans.
20 ans, pile.
Ouais. Donc, j'avais fait déjà un passage par l'Otta Continua. Et puis, j'ai commencé à avoir les premiers contacts avec ce qu'on appelle autonomie ouvrière en Italie. Donc, je commence à bouger un peu avec, j'étais très jeune, j'étais très chaud, et puis je bouge, quoi. Donc, voilà, on fait des braquages pour financer des choses. Des fanzines, il fallait de l'argent pour acheter des machines à écrire et tout cela. Donc, ça, c'était une pratique tout à fait normale en Italie à l'époque. C'est-à-dire que l'on fait, même à la jeunesse communiste, il le faisait. Même s'il est ni maintenant. Mais bon, voilà. Et là, je me fais arrêter sur un braquage, donc j'en ai pour plusieurs années. Après, je suis sorti un peu en avance, j'en ai presque pour 3 ans de prison.
Ah, c'est pas mal, la première expérience à 20 ans.
Ouais, ouais. Mais après, je sors de prison et je rentre en clandestinité. Donc voilà, quoi, ça démarre mon long voyage jusqu'à 79, où je suis arrêté à nouveau, et cette fois-ci pour de bon.
Alors, en 79, donc, t'es arrêté et condamné pour 4 meurtres et 50 braquages. 50 braquages. Qu'est-ce que tu assumes dans tout ça, dans ces 4 meurtres, dans ces...
Moi, j'assume la responsabilité politique de ce qui a été fait par mon organisation, par moi-même, et par toutes les autres organisations, par tout ce qui s'est passé dans les années 70 en Italie. Je l'assume politiquement de A à Z, parce que même si c'était des autres organisations avec lesquelles j'avais des différences, de toute façon, c'était une période historique bien précise, et j'assume cela, et je pense que il fallait passer par là. À tort, à raison, avec des erreurs, ou avec de bonnes idées, mais c'était cette période-là, et je ne peux pas renier tout cela. Je le revendique, je l'assume politiquement, mais je n'assumerai pas jamais les faits pénals, parce que ça c'est de l'histoire, et l'histoire ne se fait pas dans les tribunaux. Je veux dire, je ne rentrerai jamais dans les détails. Moi, de toute façon, j'aurais refusé de répondre devant un tribunal. Oh,
César Battisti, 48 ans, écrivain qui vit depuis 10 ans en France et qui évoque sa jeunesse italienne, sa jeunesse d'activiste dans l'extrême gauche italienne. On le sait, aujourd'hui, l'extrême droite en Italie, tout comme des responsables de l'armée et des services secrets, Isabelle Sommier l'indiquait, cette historienne, et même des chefs mafieux travaillaient notamment au sein de la loge P2, que Monsieur Berlusconi connaît bien, à une entreprise de prise du pouvoir avec la bénédiction de l'OTAN à travers son réseau Gladio. Alors il y a eu évidemment en 78 l'enlèvement et l'exécution d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, et ce sera le début de la fin de ces années de plomb. Isabelle Sommier.
Ce qui est important de noter, donc, c'est que ce mouvement de contestation né à la fin des années 60 va connaître un changement au milieu des années 70 à la suite de l'autodissolution ou de la dissolution de ces premiers groupes comme Lotta Continua, Poter et Operaio. C'est une nouvelle forme de protestation de la part d'étudiants qui sont plus précaires, hein, et qui donnera donc naissance à ce qu'on appelle le mouvement autonome, avec l'année 77 qui est une année où il y a des violences tous azimuts. Alors des violences diffuses, lors des manifestations on voit apparaître des pistolets, des braquages dits politiques, également la légitimation du vol, de l'expropriation, à des fins dites politiques, ce qu'on appelle les marchés politiques, c'est-à-dire les militants qui vont dans des magasins et qui remplissent leurs paniers, sans payer bien entendu, et qui vont ensuite distribuer leurs denrées, l'autoréduction des services publics, qui est très très diffusée à ce moment.
Donc il y a ces années d'ébullition.
Et alors, parallèlement ou en même temps, certaines organisations, par exemple les Brigades Rouges, qui sont nées en 1970, qui, selon l'expression, élèvent le tir, et qui passent donc à ce que les Brigades Rouges appelaient l'attaque au cœur de l'État. C'est-à-dire que les Brigades Rouges vont entrer de plus en plus en clandestinité et vont avoir des actions de plus en plus dures, une première séquestration et ensuite un premier assassinat d'un juge qui était considéré comme ayant des sympathies fascistes en 76. Alors Aldo Moro, c'est 78. C'était évidemment d'abord un personnage très très connu, président du Conseil, et ça c'est aussi une date clé, très certainement, parce que c'est à partir de ce moment-là où tous les partis vont s'allier pour adopter une législation antiterroriste, et c'est une période également où tout ce qui était justement, je dirais pas l'accord de la classe ouvrière vis-à-vis de ce qui se passait, mais je dirais plutôt que la classe ouvrière, elle était un peu attentiste, elle regardait, et quelquefois, par exemple à la Fiat, on l'a rappelé, elle pouvait utiliser cette période de violence diffuse dans un cadre donc un peu de négociation. À partir de 78, eh bien, une très forte mobilisation sur le plan judiciaire et sur le plan également psychologique pour déraciner en quelque sorte la passivité un peu bienveillante dont ces groupes profitent chez une partie de la classe ouvrière. Puisqu'on considère que, au total, il y a eu 4000 militants qui ont été d'extrême gauche, qui ont été inculpés pour subversion et atteinte à l'ordre constitutionnel, à peu près 4000. Et le ministère de l'Intérieur, à la charnière des années 70-80, parce que c'est là où vraiment il y a des démantèlements, des arrestations, etc., estimait que la frange subversive d'extrême gauche était de l'ordre de 100 000 personnes.
Et pendant ce temps-là, en face, justement, les groupes qu'on appelle fascistes, mais qui étaient aussi différentes obédientes, différentes couleurs, et différentes manipulations aussi, puisqu'on avait parlé de l'intervention de certains groupuscules politiques.
Oui, effectivement. Alors, les stragédistates, les massacres d'État, continuent tout au long des années 70. Et le plus important, c'est l'attentat contre le train de Bologne.
Le plus meurtrier de tout sera, après, en 1980, le massacre à Bologne, à la gare de Bologne, où il y aura plus de 80 morts.
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est assez affreux à dire, de faire comme ça une comptabilité des morts. Mais ce qu'on appelle les années de plomb, on fait à peu près 380 victimes. Et parmi ces 380 victimes, l'extrême gauche est responsable de 128 morts. Donc le reste, c'est donc des groupes fascistes, quelquefois donc appuyés par une partie des services secrets qui sont responsables. Ce sont des attentats aveugles par le biais de bombes. Donc ils font évidemment beaucoup plus de victimes.
Est-ce qu'il y a eu justement une même poursuite policière contre les groupes d'extrême droite ?
Là, évidemment, vous posez une question un peu délicate qui a donné lieu à pas mal de polémiques. Il est avéré aujourd'hui, parce qu'avec le temps, certaines choses se sont éclaircies, que les groupes d'extrême gauche ont été beaucoup plus poursuivis et beaucoup plus condamnés que les groupes d'extrême droite, dont un certain nombre ont pu bénéficier de complicité pour s'échapper de l'Italie, ou ont vu leur peine assez facilement oubliée, pour ne pas compromettre, justement, révéler les complicités dont ils avaient pu bénéficier.
En fait, 4087 militants ont été condamnés, 224 sont toujours en prison, dont 130 bénéficient du régime de semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils sont libres dans la journée, mais ils vont dormir en prison. 190 sont en fuite et une centaine d'entre eux, à peu près, on ne sait pas exactement, sont en France, donc avec ce statut non officiel, mais de la parole donnée, donc je le disais tout à l'heure, autrefois par François Mitterrand, lors de son premier septennat, et puis successivement par 9 gouvernements. Revenons à César Battisti, cet écrivain, réfugié lui en France depuis 92, qui a été arrêté à la fin des années 70.
Je suis arrêté en juin 79, dans une opération où il y a une centaine de personnes qui sont arrêtées la même nuit. Donc, je rentre dans le circuit des prisons spéciales à l'époque. C'était des prisons toutes neuves qui s'avaient construites un peu partout en Italie. Et c'est là que, 2 ans et demi après, donc en octobre, le 4 octobre 81, un commando attaque la prison pour me libérer. Je sors, je m'évade. Et là, c'est pas moi qui s'échappe tout seul. Hein. Donc, il y a eu un commando bien assez nombreux qui ont pris la prison, en fait.
Et là, vous partez? Ouais, c'était pas dans le coin.
Et là, ça commence l'Odyssée, ça commence l'enfer. Pendant 2 mois, c'était vraiment l'enfer parce qu'on n'arrivait pas à passer la frontière et ils nous suivaient partout. C'était en plein hiver, en plus. Et on ne savait pas comment sortir. Ils étaient toujours derrière nous. Hein. Nous, on arrivait dans un endroit et les jours d'après, ils arrivaient vraiment 20-30 voitures de flics. Et donc voilà, finalement on arrive à passer cette frontière, c'était le mois de janvier, sur les montagnes, donc il y avait la neige très très haute. Et puis bon, on arrive en France où on nous avait dit qu'il y avait une situation de réfugiés italiens. C'était déjà à l'époque Mitterrand, c'est déjà en janvier 82, et Mitterrand il avait déjà fait des déclarations dans le sens d'aider l'Italie à tourner la page et donc d'accueillir les réfugiés italiens.
Donc Mitterrand et ses conseillers, évidemment, ont pour politique vis-à-vis de vous, de vous garantir la sécurité, hein, à condition que vous renonciez à toute activité politique, évidemment.
Mais je suis certain, si les camarades italiens venaient passer la frontière pour arriver en France, c'est parce qu'ils avaient renoncé. Mais depuis longtemps déjà, ils avaient renoncé. Je précise que quand j'étais arrêté en 79, ça faisait un an que notre organisation était dissoute, déjà. Nous, on avait renoncé depuis un moment déjà aux armes, quand j'étais arrêté. Et voilà, quoi, comme j'ai vu en France depuis, comme un citoyen normal. Pourquoi le gouvernement italien nous veut maintenant? Parce que Berlusconi a gagné les élections en promettant à tout le monde qu'ils allaient devenir riches. Il n'y aurait plus d'impôts, il n'y aurait plus rien. Bon, on connaît la chanson.
Wanna be americano, americano, americano. You were born in Italy. You try living alla moda, but if you drink whiskey soda, all you do is sing off key.
È l'unico sistema di cui oggi il mondo dispone per aumentare il benessere è il sistema del libero mercato.
Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, se andami non c'è sta niente fa, ok la volontà.
Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll.
Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la situation en Italie, c'est grave, parce qu'il n'y a rien de ce qu'a promis Berlusconi, même tout à fait au contraire. Donc, l'effet de dire à l'opinion publique italienne, la cause de tous les maux d'Italie, ce sont les terroristes rouges que la France protège, je vais vous les ramener. Personne n'y est jamais arrivé pendant 25 ans, je vais les faire. Eh bien, il en a pour 4 ans, tranquillement. Voilà. Ça, c'est de la poudre aux yeux pour l'opinion publique italienne, laquelle est intoxiquée complètement, et qui ne connaissent pas l'histoire. Et c'est normal parce que les années 70 en Italie ont été effacées et refaites. Pour la France, bonne question. Qu'est-ce qu'elle a besoin de la France? Qu'est-ce qu'elle va donner en échange, l'Italie? Ils disent parce que pour l'extradition des terroristes islamiques qui sont en Italie. Comme si on était la même chose. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que nous, on a quelque chose à voir avec les terroristes islamiques? Bon. Mais je ne pense pas que des hommes politiques de ce niveau-là vraiment croient que soit important les traditions des Italiens en Italie. Ni comme Berlusconi sait très bien que nous, on n'a rien à faire, on ne fait rien et on compte rien pour personne en fait. Quoi. Mais il y a plusieurs pétitions qui circulent. Et je pense qu'ils doivent en tenir compte, parce que je ne sais pas comment ils vont, par exemple, dire à des personnalités qui ont une figure, une réputation internationale, qui ont déjà signé, comment ils vont expliquer qu'on envoie des gens en Italie, et ces gens, ils ça fait 25 ans qu'ils sont là, ils se sont reconstruits dans une vie, ils ont une profession, ils ont une famille, on les accueille ici, et puis 25 ans après, on les envoie chez Berlusconi. Donc, c'est pas évident de gérer cette histoire-là pour le gouvernement, je pense. Il faut les faire. Il faut les faire. Il faut vraiment qu'ils se mettent à nu en disant, bon, nous, alors, on traite avec les fascistes parce que nous aussi, on va vers cette direction-là. Alors, moi, c'est quand même grave. Je veux dire, je ne pense pas.
Et eccoci ancora qui, una magnifica avventura, di nuovo con l'equipe di Daniele Sepe. Tutti in pista a ballare!
Voilà, merci à tous. Je vous rappelle donc Cesare Battisti, vous venez d'entendre, c'était une rencontre en 2002, au septembre 2002, a été arrêté hier. Pour en savoir plus, vous pouvez vous aller sur le site www.vialibre5.com. Via Libre en un seul mot, www.vialibre5.com. Ou bien signer une pétition sur le site www.mauvaisgenre.com. Et puis quoi donc? Alors, une ce soir à 19h30 à Paris, pour des informations sur cette arrestation tout à fait surprenante de Cesare Battisti, il y aura des informations qui seront données à un endroit qui s'appelle La Passerelle. Je crois que c'est un bistrot, mais j'en suis pas très sûr. Ça s'appelle La Passerelle, 5 rue Saint-Hubert à Paris, dans le 11e arrondissement. Et puis le dernier bouquin de Cesare, c'est Cesare Battisti, c'est Le Cargo Sentimental, où il raconte évidemment, il prend comme matière son expérience dans ce roman. Aujourd'hui, c'était Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne à la technique, l'assistant musique Coy Nguyen, le répondeur, le numéro c'est le 0156 40 37 37, 0156 37 37, vos réactions, vos grains de sel et vos grains de sable. C'est Christophe Humbert qui s'occupe du répondeur, assistante Anne de Giaferi, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.